en 3h25, c'était dans la Drôme.
C'est incroyable.
Vous avez envie d'essayer, Pierre, vous qui allez faire le Paris-Versailles?
Ouais.
Essayer Hercule?
Je me demande vraiment si c'est un intérêt quelconque scientifique ou c'est juste une...
Bah, oui, on te dit pour les lombaires et pour les...
Non, mais là,
je vais essayer ce week-end.
Est-ce que TikTok met ça en avant, donc nous invente un pseudo résultat scientifique ou c'est vrai? Je veux dire... Si à 15 ans...
Je demande à mon médecin.
Oui, bah, dites-le moi.
Je vous dirai dès que j'aurai la réponse.
RMC, Estelle Midi. Tous les matins, réveillez-vous avec RMC.
À 4h30, votre premier journal. 5h, 6h30, Charles Matin.
6h30, 9h, Apolline Matin et le face-à-face à 8h30 avec un invité qui fait l'actualité. RMC, le matin.
Le réflexe info. Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC.
RMC Escrime. Du 17 au 19 mai, c'est le Challenge Monal. La Coupe du Monde d'épée hommes accueille les stars mondiales de l'escrime à Saint-Maur-des-Fossés. Encouragez le champion olympique Romain Canon et ses partenaires de l'équipe de France pour la dernière épreuve sélective avant les Jeux Olympiques. Info et résa sur ffescrime.fr. Le Challenge Monal. Du 17 au 19 mai avec RMC.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, les grandes gueules.
Bonjour, c'est Alain Marchal. Tout à l'heure, de 9h à midi, venez donc vous asseoir avec les GG durant 180 minutes. Vous asseoir avec les grandes gueules pour discuter, pour débattre au 32-16 avec le restaurateur Stéphane Manigold, le consultant auprès des entreprises Antoine Biers et avec Zora Vitan, cadre de la fonction publique.
RMC les grandes gueules, tous les jours 9h midi.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff. Estelle Midi.
RMC s'engage avec vous.
Et aujourd'hui, Amélie, vous allez tenter de faire quelque chose dont on a tous rêvé un jour. Certains ont essayé de le faire. Mmh. Vous allez tenter d'annuler des PV d'un auditeur. Mais ce sont des PV injustifiés.
Voilà, on va le dire tout de suite. Je n'annule pas comme ça tous vos PV et vos amendes de stationnement.
C'est dommage.
Je suis désolée, mais c'est la loi. En revanche, là, la loi est avec nous. François nous a écrit, il est invalide, il est titulaire d'une carte inclusion mobilité, ça s'appelle, c'est la carte handicapée. Elle lui permet de se garer partout gratuitement. Et pourtant, l'été dernier, il rend visite à une amie à Asnières-sur-Seine. En banlieue parisienne, de retour chez lui à Lyon, il reçoit une amende de stationnement. Il la conteste et puis il en reçoit 4 de plus et il découvre carrément un avis de saisie administrative. Écoutez.
Et depuis, plus de nouvelles, si ce n'est qu'on continue à me saisir sur ma retraite. J'ai 900 euros de retraite, que le mois dernier, on m'a retenu 114,77 €. Et ce mois-ci, j'ai un montant à peu près similaire, ça me fait un trou dans la raquette. Quoi. Du moins, j'ai du mal à boucler mes fins de mois, mais pas encore plus qu'avant. Quoi.
Ah bah oui, on imagine bien, puisqu'au total, en fait, on réclame à François 425 € et ça représente la moitié de sa retraite mensuelle.
Ouais, donc c'est absolument énorme. Mais François, comme il est en invalidité, normalement, il a le droit de se garer où il veut, non?
Absolument, mais ça, Estelle, la sulfateuse APV ne le savait pas.
Mais bien sûr,
c'est le surnom donné par les automobilistes au système de lecture automatique des plaques d'immatriculation. Vous savez, ces voitures qu'on appelle aussi voitures vampires, qui existent, enfin qui sont autorisées depuis 2018 et qui circulent dans les rues, qui lisent votre plaque et qui savent si vous êtes mal garé, si vous avez payé ou non. Perpignan, Rennes ou encore Beauvais, tout récemment, sont passés à ce système. Et partout où il est en place, des personnes en situation de handicap, comme François, rencontrent le même genre de difficultés, tout simplement parce que leur carte, elle n'est pas détectée et ça génère des amendes injustifiées.
Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour éviter ce type d'erreur? Parce que François ne doit pas être le seul.
Ah non, pas du tout le seul. D'ailleurs, l'État en a bien conscience. Il a donc récemment mis en place une plateforme en ligne pour recenser les titulaires de la carte. Pour l'instant, c'est les mairies qui doivent remplir. À terme, ce sera les usagers qui devront le faire. Et pour que tout ça puisse communiquer et qu'on s'aperçoive, les voitures s'aperçoivent qu'en fait, ils n'ont pas besoin de payer. Sauf que, évidemment, ce n'est pas encore disponible dans toutes les communes et qu'il faut encore patienter 2 ans.
Deux ans
avant que toutes les communes soient équipées, aient accès plutôt à la plateforme. Et en 2 ans, il va y avoir le temps d'avoir encore quelques amendes injustifiées.
C'est sûr.
Je le crains. Autre solution, simple, envoyer à nouveau des agents sur place pour aller vérifier sur le pare-brise.
Mais ça rapportera moins que la voiture machine.
Sur le pare-brise des voitures. Et d'ailleurs, ça, c'est une recommandation de la CNIL, la Commission informatique nationale informatique et liberté. Sauf qu'elle est presque jamais respectée, évidemment, vous l'avez dit, parce qu'il faut bien dire que la sulfateuse APV, ça rapporte gros.
Évidemment.
À Asnières-sur-Seine, par exemple, 1 million d'euros l'année dernière contre 400 000 avant la mise en place de la voiture vampire.
Ça me rend dingue parce qu'en plus elle peut pas faire gaffe la voiture vampire.
Ah, bien sûr.
Si t'as juste voilà à un moment tu t'es garé avec tes warnings, t'as fait un truc pendant 2 secondes et t'es revenu.
Mmh. Et même si vous restez dans la voiture par exemple vous êtes mal garé.
Ouais.
Pendant quelques minutes.
Ah, mais oui,
vous téléphone. D'abord en disant voilà je bougerai si je gêne.
Et ben non, la voiture ne voit pas que vous restez à bord.
Mais c'est incroyable. Amélie, qu'est-ce qu'on a pu faire pour François?
Déjà, on va le dire, la mairie d'Anières-sur-Seine s'est franchement démenée pour trouver une solution. Et elle le faisait d'ailleurs avant qu'on entre dans le dossier. Sincèrement, simplement, elle n'y arrivait pas. Alors avec Marilyn Notman, on a porté l'affaire jusqu'à la ministre chargée du handicap. Oui, oui, rien que ça. Qui nous a promis de leur écrire en personne pour s'assurer que François ne soit plus jamais pénalisé. Et surtout, pour ces 125 euros d'amende, ils sont annulés. Si vous avez bien compris, la moitié a déjà été prélevée sur sa retraite. Mmh. Ça lui sera remboursé dans les semaines à venir.
Mais c'est génial, ça.
Ouais, c'est génial.
Et bravo, Amélie. Encore un cas résolu grâce à votre talent et grâce au talent de tous ceux qui travaillent avec vous.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
Tous les matins, dès 5h, RMC vous réveille en douceur ou accompagne la fin de votre nuit.
C'est Charles Matin.
De l'économie, du sport, du rire et bien sûr toute l'actualité.
À vos réveils, RMC Charles Matin, du lundi au vendredi, de 5h à 6h30.
Tous les jours dès 6h, Charles Matin est aussi à la télé sur RMC Story, canal 23 de la TNT. RMC partout, RMC tout le temps.
En podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Ce week-end, à l'Hippodrome d'Auteuil, c'est le Grand Steeplechase de Paris avec RMC. Assistez à la plus spectaculaire des courses d'obstacles de l'année. Prenez vite vos places sur francegallo-live.com. Le Grand Steeplechase de Paris, ce week-end avec RMC. À chaque obstacle, c'est votre cœur qui bondira. RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Le samedi soir, 19h-20h30 sur RMC, c'est Stephen Time. Avec Stephen Brun et Benoît Boutron, ne ratez rien de l'actu sport de la première partie du week-end. De nombreux invités, des débats enflammés et forcément, beaucoup d'humour. RMC, Stephen Time, demain, 19h-20h30. RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Le chiffre du jour, 4 920 000, c'est le nombre d'adultes qui vivent encore chez leurs parents en France. En 10 ans, le nombre de Tanguy, de 18 à 24 ans, qui habitent encore chez papa-maman, a augmenté de 13,5%. C'est assez considérable, Rémi.
Oui, le nombre de jeunes adultes hébergés chez leurs parents a augmenté de 250 000 entre 2013 et 2020. L'étude, elle est publiée ce matin par la Fondation Abbé Pierre. Dans le détail, tu l'as donné, hein, ce chiffre, 4 920 000 adultes vivaient chez leurs parents en 2020 contre 4 670 000 en 2013. Il s'agit en majorité de jeunes âgés de 18 à 24 ans. Leur nombre est en hausse alors que les plus de 35 ans vivant chez leurs parents, il y en a, hein, diminuent quand même de 20%. Selon la Fondation, les chiffres s'expliquent notamment par un plus grand nombre de jeunes en France. Les enfants du baby-boom de l'an 2000 arrivent progressivement à l'âge adulte, mais ils sont aussi un signal supplémentaire de la gravité de la crise du logement des jeunes, et notamment des jeunes précaires. Car outre 2 400 000 étudiants qui vivent chez leurs parents, ça on le comprend, quand on a son université ou son école qui est à côté, bah pourquoi payer un logement? On va attendre la fin des études. Mais il y a quand même 1 300 000 jeunes salariés qui continuent d'habiter chez leurs parents, ce qui peut refléter, selon la Fondation Abbé Pierre, des salaires trop bas, des niveaux de loyers trop élevés ou des logements sociaux trop rares pour pouvoir quitter le domicile familial.
Il y a peut-être aussi des adultes qui restent chez leurs parents parce qu'ils s'y sentent bien, parce que les parents cuisinent bien, parce qu'il y a l'eau.
Logé, nourri, blanchi.
Mais bien sûr,
à la limite, on donne 150 euros par mois aux parents quand on a un salaire pour leur faire plaisir.
Ah bon, il y a des gens qui font ça?
T'as
la machine à laver, la vaisselle.
Mais dans un monde normal, l'enfant veut quitter le nid. L'enfant veut commencer sa vie dans un monde où tout va bien et qu'on a les moyens. Il n'y a aucun problème. On a tous envie de quitter les parents.
L'immense majorité, d'après ce que dit la Fondation Abbé Pierre, des jeunes qui restent chez leurs parents, ils le font de manière contrainte.
Voilà, alors deux choses. Il y a deux raisons. La première raison, effectivement, Rémi l'a très bien dit, c'est qu'une fois les études achevées, Ah, on n'a toujours pas les moyens, évidemment, en tant qu'avec un premier salaire, de quitter la maison et de se louer un appartement. Donc, c'est catastrophique.
Et de filer 3 loyers d'avance.
Voilà, exactement. Et la deuxième raison, c'est aussi que les études sont de plus en plus longues et que les jeunes arrivent de plus en plus tard sur le marché du travail, ce qui est un énorme problème, notamment pour les retraites. Et en plus, ce sont des études qui... Évidemment, pas toutes, mais il y a une grosse partie qui est de plus en plus grosse, qui en plus ne sont pas des études qui t'amènent concrètement vers un métier très précis. Ceux qui végètent sur les bancs de la fac pendant 8 ans, sociaux, etc. Enfin, je veux pas stigmatiser tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui mûrissent de moins en moins jeunes, qui se disent « Ah ben, je vais essayer ça, puis je vais essayer ça, puis non, ça me va pas, je vais essayer ça », qui finissent 10 ans sur les bancs de la fac pour rien, quoi. Voilà.
Toi, t'es parti à quel âge chez tes parents ?
Très tôt, 16 ans.
16 ans. Ouais. Ah oui, 16 ans.
Mes parents m'ont donné cette opportunité aussi de liberté pour faire quelque chose de très précis et ils m'ont laissé partir, quoi. Ils m'ont laissé faire fille au père à l'étranger. Oui. J'ai eu mon bac à Madrid et j'étais aux États-Unis avant.
Mais toi, moi, je suis partie à 17 ans et demi et en vrai, il y a quand même, la première année, il y a des moments qui n'étaient pas faciles quand même. Il y a des moments où tu regrettes de ne plus être chez tes parents. Hein. C'est pas toujours facile quand même.
Oui, non.
Fred Hermel, c'est l'enfer ou le paradis d'avoir un tanguy à la maison ou d'être un tanguy même ? Est-ce que vous avez été un tanguy ?
Non, moi je suis parti à la fac, je suis parti de chez moi à 18 ans. Après le bac, quand je suis parti à la fac à Lille.
Dans votre propre appart, alors, oui.
Je n'avais pas les moyens d'un appart, j'étais en résidence universitaire, moi, comme les boursiers. Les résidences universitaires sont très très importantes.
Bah, évidemment.
Ça, et j'ai rencontré le monde entier.
C'est vrai.
Des gens du monde entier.
Là, c'est formidable.
Ça m'a rendu beaucoup plus ouvert sur le monde. Alors, il se trouve que moi, je vais vous parler encore une fois de l'Espagne, parce que quand je suis arrivé en Espagne, il y a un peu plus de 30 ans, j'ai été choqué. Parce que l'Espagne, mais Tanguy, c'est normal là-bas.
Mais comme en Italie.
Ah, c'est un truc de fou. Alors moi, j'étais très choqué de dire des gens, maintenant j'avais dit mes parents. Et j'ai regardé les chiffres encore aujourd'hui. On ne parle même pas des 25 ans. Ouais, là, on parle des 25-34 ans. Ouais. 46% des 25-34 ans en Espagne habitent encore chez leurs parents.
Ouais. C'est que des fois, ils vivent en couple chez leurs parents.
Bien sûr. Le phénomène avec la crise de 2008 mondiale des subprimes, et qui a été terrifiante en Espagne. Et en Espagne, comme les gens faisaient des couples qui avaient des enfants, comme ils avaient des prêts à taux variable, ça a augmenté. Ils ont dû, leur maison a été saisie. Beaucoup sont revenus chez leurs parents avec les enfants. Donc en fait, les chiffres français, moi, ne me font pas peur je vois ce qui se passe en Espagne. Après, il y a une chose.
Il y a la tradition familiale en Espagne quand même, comme en Italie.
Moi, je dis toujours, quand on me demande de comparer la France et l'Espagne, je dis toujours que la base de la société française, ça reste l'État. C'est-à-dire, on compte sur l'État pour nous soutenir. En Espagne, c'est la famille. Donc, les gens le vivent plutôt bien et sont toujours très étonnés. À quel âge t'es parti ? Bah, moi, je suis parti à 18 ans. Les gens n'imaginent pas ça en Espagne.
Pierre Rondeau, vous êtes prof aussi d'éco, donc vous avez beaucoup d'étudiants. Et est-ce que ce sont des tanguis, vos étudiants ? Est-ce qu'ils vivent seuls ? Vous ne savez pas du tout.
Alors, non, je ne leur pose pas la question. Oui. Je ne leur demande pas en arrivant. Alors, tu vis chez ta mère ?
Chez ta mère. Mais tu dois avoir certains comportements qui te laissent dire qu'ils ne sont pas du tout matures et qu'ils doivent encore vivre chez leurs parents.
Sûrement. Et encore une fois, moi, personnellement, en 22-23 ans, c'est pas être considéré comme tanguy. Moi, mon cas particulier, personnel, je suis toujours resté dans l'appartement familial parce que c'est ma mère qui est partie, finalement.
T'as l'inverse. Chassé ta mère.
C'est l'inverse. On avait un appartement à Paris et progressivement, mon frère est parti, ma sœur est partie. Ma mère, elle a eu une opportunité de pouvoir s'installer en Bretagne. Elle est partie, et moi j'ai conservé l'appartement, je me suis mis en colocation dans l'appartement et j'ai gardé jusqu'en 2020, après on a dû s'en séparer. Mais de 2014 à 2020, j'étais dans l'appartement familial, mais en colocation avec des gens que j'ai choisis. J'en ai largement profité.
Ah bah oui.
Tu payes pas le loyer,
c'est un appartement qu'on louait, mais on a changé le bail.
D'accord.
Parce que quand ma mère a dû partir, on le louait, on le louait. J'ai dit, dans ces cas, moi je le récupère, mais je fais une colocation dans l'appartement.
Mais tu vivais seul quand même.
Donc si tu veux, en gros, là où j'ai fait des économies, c'est les meubles. C'était meublé, j'avais déjà tout, j'avais déjà les machines, j'avais déjà les frigos, j'avais déjà tout équipé.
Mais si ta mère était restée dans l'appartement, est-ce que tu serais resté avec ta mère? En vrai, oui, je vois ta tête.
Ouais, en vrai, oui, parce qu'il y avait tout finalement. Il y avait. En vrai, si ça se trouve, c'est ma mère qui m'a rendu un service en partant, parce que si elle était restée, je serais resté.
Comment? Tu as quel âge?
Là, actuellement, 36 ans.
tu seras encore là.
J'en sais rien.
Mais comme, comme tu étais célibataire, je veux dire, bah.
Ouais, mais non, mais je pense que normalement je serais parti. Mais je veux dire, quand on parlait de la précarité étudiante, effectivement, quand j'étais étudiant, et bien évidemment que j'aurais jamais eu les moyens de pouvoir vivre à Paris, hormis résidence universitaire. Et comme je suis parisien, j'aurais pas pu y avoir droit. Donc je serais resté en tant qu'étudiant. Et une fois que rentré dans la vie active, quand je vois ce que demandent dans les logements privés, les assurances locatives, c'est obligation d'apporter un CDI, donc bon courage pour un CDI sortant d'études, et un salaire équivalent à 3 mois de loyer.
Oui, mais c'est pas jouable. C'est mission impossible.
Donc bien évidemment, en tant que Parisien, j'ai trouvé une très bonne solution. On a fait avec jusqu'en 2020.
Alors, on a Sylvia qui nous a appelé au 3216, qui habite à Argenteuil et qui est chargée de recouvrement. Bonjour Sylvia.
Bonjour Estelle, bonjour à tout le monde. Bonjour.
Sylvia, est-ce que vos enfants sont encore chez vous?
Eh oui.
Oula, je sens un oula. Mais ils ont quel âge?
Elle va avoir 24 ans là, cette année.
Ouais.
Et elle travaille, hein. C'est donc quelqu'un d'actif, hein.
Ouais.
Mais qui, effectivement, Argenteuil, bien que ce soit pas une ville hyper cotée, les loyers sont très très chers, c'est très compliqué de trouver un logement. Ouais. Je rejoins Pierre, c'est pareil, maman elle travaille, mais acheter tous les meubles et tout ça, ça coûte une fortune.
Bah oui.
Et c'est très très compliqué, et puis il y a le petit confort d'être chez maman qui fait à manger, le ménage, le repassage, le linge. Mmh.
Et juste Sylvia, elle gagne combien votre fille?
Elle gagne à peu près 1400 euros par mois.
Ouais, c'est pas énorme, alors, franchement. Enfin voilà, après moi je la comprends, mais j'ai l'impression que ça vous pèse un peu, non?
C'est parfois compliqué, oui, parce que effectivement, moi je suis partie très jeune de chez moi, j'ai commencé par de l'internat et j'ai eu mon premier appartement, j'avais 17 ans.
Ouais.
J'ai une vie sociale et c'est vrai que parfois ça peut être compliqué parce que on a quand même un écart d'âge assez important qui fait que mes fréquentations ne lui conviennent pas forcément, donc je peux pas forcément recevoir quand je veux chez moi, qui je veux quand je veux, c'est compliqué.
Vous avez une fille qui vous flique en fait?
Oui, quand je suis à l'extérieur, il m'arrive de recevoir un texto, tu rentres quand?
Oui, mais est-ce que vous faites l'inverse? Oui, mais parce que en fait, le problème, c'est quand on a un enfant, effectivement, qui a 25 ans chez soi, enfin, moi j'ai des amis, c'est le cas, mais tu demandes quand même à ton enfant quand est-ce qu'il rentre, ça paraît normal parce qu'il vit encore à la maison. Donc, est-ce que vous aussi, vous lui posez ces questions? Est-ce que vous aussi, vous surveillez ses fréquentations?
Alors, je ne surveille plus les fréquentations, bien que je lui demande quand même quand elle sort, tu vas avec qui? Bon, la réponse, c'est tu ne connais pas, bien évidemment.
Bien évidemment, mais ça, c'est normal.
Je m'inquiète
aussi
quand elle rentre le soir du travail, parce qu'elle travaille en restauration. Donc, quand elle rentre le soir, elle rentre tard. Et donc, je lui demande de m'informer où elle en est dans son trajet.
Mais c'est ça. En fait, c'est horrible parce que quand un enfant reste tard, ça inquiète encore plus. On est encore obligé de s'inquiéter.
Bien sûr.
Alors que quand l'enfant part, mettons, il est en couple, etc., tu dis, ça y est, c'est réglé.
On ne peut pas être un adulte tant qu'on est chez ses parents parce qu'on aura toujours ce genre de questions.
Et c'est obligé.
C'est le genre de
questions
que moi, je ne supporte plus.
Oui. Mais nous, on est parents, on est obligés.
Quand je rentre à Noël, l'habitude revient tout de suite. C'est-à-dire que ma mère va me demander. Tu sors, tu vas où, avec qui, pourquoi, tu rentres à quelle heure? Oui, t'es où?
Oui, mais t'aimes ça aussi.
Maman, je t'aime, je sais qu'elle me regarde.
Mais t'aimes ça aussi. Et si elle ne te le demandait pas, tu dirais.
Non, mais j'aime ça, au bout de 2 semaines, t'es content de rentrer chez toi et de retrouver une vie où tout le monde ne te demande pas où t'es, tu vois.
Et Sylvia, juste petite question, est-ce que vous accueillez le petit ami ou la petite amie de votre fille?
Alors, je l'ai fait.
On sent que ça vous a ravi.
Je préfère ça plutôt qu'ils aillent dans des endroits glauques ou quoi. Mais c'est pareil, c'est pas facile.
Ah ouais, d'avoir un inconnu au petit-déj, merci quoi. Non mais c'est horrible. Ça, c'est ma hantise. Excusez-moi.
C'est un peu compliqué le bonjour, tu veux un café?
Oui, c'est ça, vous êtes qui? Parce que c'était pas vous avant-hier.
Bon, alors maintenant, j'ai ma mère qui m'écrit pour me dire « Tu ne viens pas souvent ».
Oui, ça, c'était ça.
Je me mets dans la panade.
Merci beaucoup, Sylvia, en tout cas, pour ce témoignage qui était plein d'humour, mais qui doit refléter aussi ce que vivent de très nombreux parents. Vous avez des messages, Rémi?
Des messages sur Direct Studio, notamment celui de Tugdual qui nous dit « Bonjour l'équipe, je suis resté chez
mes parents. » C'est un habitué.
Oui, exactement. « Je suis resté chez mes parents jusqu'à 23 ans, je payais toutes
mes dépenses.
Ah bon ?
Je participais aux tâches ménagères, je versais un loyer au prix du marché pour la chambre.
Non, carrément. Mais non.
Et si je n'étais pas content des conditions, j'étais libre d'aller voir ailleurs.
Voilà ce qu'on avait fait. Il y avait un bail, il y avait un contrat, il y avait une caution.
Ah oui, c'est...
J'imagine, oui, et pas de bruit après 22h.
Notre invité sur ce débat, c'est Florence Lautredoux. Elle est psychanalyste et auteure. Alors, bonjour Florence.
Oui, bonjour Estelle.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors on rigole, mais c'est pas si drôle que ça finalement ce phénomène des tanguis. Est-ce que c'est grave, Florence Lautredoux, d'être encore chez ses parents quand on a 25 ans?
Je pense qu'on peut. Il est effectivement difficile de donner un état des lieux, mais ça peut être presque parfois, je dirais, naturel. Dans la mesure où ça arrange toujours un peu les deux parties quelque part, même si on l'a bien vu dans vos témoignages, un qui râle, il y en a qui rigole, il y en a qui s'adapte, finalement il reste dans les deux côtés. Parce qu'en fait, il y a une pulsion qui est une pulsion de sécurité, bah, elle nous appartient tous, hein. On recherche la sécurité, et souvent en se référant à ce qui s'est passé. La notion de répéter le même, il y a une forme de sécurité. Donc, face à un monde effectivement financièrement difficile pour les jeunes, et puis et pour les statuts, hein, les CDI, tout ça, c'est pas donné tout de suite.
Alors attendez, Florence, en fait, je vais vous laisser, Florence, je vais vous laisser régler votre téléphone. On va vous rappeler parce que là, on vous entend très très mal. Juste le temps de prendre Monique en ligne qui nous appelle de Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie. Monique qui est retraitée et Monique, votre fille vit encore avec vous, hein.
Oui, bonjour.
Bonjour Monique. Bonjour, Monique. Elle a quel âge votre fille? Elle a quel âge votre fille?
Alors, elle aura 41 ans le 10 juin.
Ah oui, quand même.
Ouais. Oui. Oui.
Mais pourquoi elle n'est pas partie?
Elle n'est pas partie parce que, en fin de compte, bon, elle a trouvé son travail sur Saint-Jean-de-Maurienne. Et puis, vu le tarif des loyers, et puis nous, avec mon mari, ça nous arrangeait qu'elle soit aussi avec nous.
Ouais.
Et puis, non, ça c'est pas... On nous a pas mis, faut que tu partes, faut que tu t'installes. Non. On était gagnants, si vous voulez, aussi bien son papa que moi.
Voilà. Et elle n'a jamais voulu partir, Monique?
Peut-être quand elle avait, bon, vous savez, 20 ans, je veux ma liberté, je veux partir, tout ça. Mais avec le recul, ce qu'on a fait, une colonne, les avantages et les inconvénients de prendre un appartement. Ben écoutez, quand on a mis les avantages et les inconvénients, on s'est dit, bon, il vaut mieux qu'elle reste à la maison. Hein.
Mais elle, Monique, votre fille, elle n'a pas quand même des, là parfois 41 ans, des envies de départ. Parce que si elle travaille, elle a dû mettre de côté un petit pécule quand même.
Oui, elle dépense, hein. C'est une, elle dépense, hein. C'est une dépensière. Elle aime bien la mode, elle aime bien sortir. Donc voilà. C'est moi qui lui ai dit qu'il fallait qu'elle fasse un plat et par le logement. Donc c'est sûr qu'elle a un petit pécule de côté, quoi. Mais bon, au niveau pour la maison, moi je la gâte un peu, hein, parce que bon, le matin.
Quand j'espère qu'elle vous gâte aussi.
Oui, énormément. Elle ne se trompe jamais sur les cadeaux. Et puis, il y a une chose aussi qui est bien, c'est qu'elle adore voyager. Alors donc, après, j'avais quand même signalé qu'il y a 2 ans, j'ai perdu mon mari, malheureusement, à cause du Covid.
D'accord.
Ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup chamboulé.
Bien sûr.
Qu'on continue à voyager. On part en principe deux fois dans l'année, donc voilà. Mais
vous êtes fusionnelle en fait.
Ah, énormément. C'est vrai que quand on voit le film Tanguy, ça nous fait rigoler.
Bien sûr. Ça se termine pas très bien, hein, si je puis me permettre.
Voilà, vous avez marqué enfer ou paradis, mais pour moi c'est le paradis. Hein,
c'est bien de l'entendre.
Et je l'entends, Monique. Et merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Et si vous êtes heureuses toutes les deux, c'est bien le principal. Florence Lautredoux, notre psychanalyste, est de retour avec nous. Florence, on se demandait si c'était normal finalement de vivre chez ses parents à 25 ou même 40 ans. Là, on vient de l'entendre.
Oui, ça, normal, pas normal, c'est au-delà des aspects financiers et matériels que vous avez évoqués. C'est une tentation naturelle que d'être dans la sécurité, et la sécurité repose souvent sur la reproduction de la même chose, c'est-à-dire ce qu'on a déjà connu par le passé, plutôt que le fait de découvrir des nouveaux horizons. Et souvent, c'est pour le jeune, c'est rassurant face à un monde incertain, avec de la précarité potentielle, et puis
Il y a plusieurs choses aussi, ça on le savait déjà, mais il peut y avoir aussi le fait que avant il y avait des stades tout clairs. On quittait ses parents, on créait sa vie professionnelle, sa famille, puis après on arrêtait tout ça, la retraite et après la mort. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide et fluctuant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent de chez leurs parents, puis qui retournent chez leurs parents, parce que finalement, et puis les parents, ils s'aperçoivent que ils étaient mariés, tiens, ils le sont plus, ou les formes sont plus fluctuantes. C'est pour ça que la régression est plus simple. Elle est pas choquante. À l'époque, il y a peut-être, je sais pas, 40-50 ans, il eût été choquant de rester chez ses parents. Aujourd'hui, il y a des gens qui reviennent. Il y a des jeunes qui font des tours du monde, ou des balades, ou qui arrêtent 6 mois, ou qui font une année de sabbatique, puis qui reviennent à 25-26 ans chez leurs parents.
Ouais, parce qu'ils n'ont plus du tout d'argent. Alors, on a parlé des enfants qui restaient chez leurs parents, mais il y a aussi des enfants qui restent chez leurs beaux-parents. Quand vous avez le fils ou la fille de votre compagne ou de votre compagnon qui est à la maison, c'est pas toujours facile. On va en parler avec Jean-François qui nous appelle de Caveyrac dans le Gard. Bonjour Jean-François.
Oui, bonjour, vous allez bien?
Bien, et vous Jean-François?
Ouais, super. Ouais, non, parce qu'on m'a fait délirer. Je vous écoute depuis très, très, très longtemps.
C'est sympa.
Ça m'a fait délirer parce que j'ai ma compagne, je le connais depuis 2 ans bientôt. Mmh. Et son fils, il était à la maison il y a encore 6 mois et il a 34 ans.
Mais ça a dû vous faire drôle, non? Enfin, je veux dire.
Ah, mais surtout, c'est que c'est connu. Moi, j'ai 3 enfants qui sont tous indépendants. Le premier a 25 ans, mon dernier a 22 ans.
D'accord.
Et lui, il est là. Mais franchement, même sa mère lui fait son lait le matin, quoi.
Son lait.
Son lait, oui.
C'est choqué.
J'ai mon doudou.
mais en fait, quand c'est tes propres enfants, encore oui. Mais quand c'est les enfants des autres,
Mais comment vous l'avez fait partir?
Disons qu'en fin de compte, on a eu la chance.
Il a senti que je gênais.
Qu'il parte au Canada, mais il n'est pas resté parce que, en fin de compte, il lui manque. Enfin, la France lui manquait.
Son lait lui manquait.
Le lait du matin lui manquait.
C'est exactement ça, mais bon, c'est vrai que franchement, c'est impressionnant et c'est de plus en plus. Moi, ça m'a fait vraiment flipper. Mais quand j'ai eu 34 ans, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait encore chez sa mère, lui?
Mais excusez-moi François, j'espère qu'elle nous écoute pas, sa mère d'ailleurs, mais Jean-François...
Non, elle travaille à l'hôpital, vous inquiétez pas.
Ça va. Mais Jean-François, juste, mais est-ce que vous avez une discussion quand même là-dessus avec votre compagne en disant, dis donc, il gêne un peu le petit, quoi, enfin...
Je lui ai parlé, je lui ai fait, si tu veux que je vienne vivre avec toi, ça serait bien qu'il soit plus là, en fait.
Ouais, et elle a dit quoi?
Elle a dit, je vais essayer de m'en occuper, et puis bon... Au bout de deux ans, on a réussi à faire partir du Canada. Enfin, partir au Canada.
Ouais. Oui, mais il n'est pas resté.
Il est parti loin.
Il est resté que 3 mois.
Et donc, il est revenu chez sa mère, alors?
Non, parce qu'entre-temps, il a réussi à trouver une compagne.
Pourvu
que ça dure, pourvu que ça tienne.
C'était impressionnant, vous inquiétez. Ça faisait peur. Elle
lui
faisait son lit et tout, non mais ça fait peur.
Ouais, mais là, on en rigole, mais au bout d'un moment, c'est vrai que les parents, la mère est aussi responsable.
Elle a une petite responsabilité, mais peut-être qu'après, ils étaient fusionnels.
Non, 34 ans, fusionnels, faire son lit, préparer dès le matin.
Ouais.
Enfin, j'ai bien aimé le message de Rémi, moi, avec le jeune, la tuque duel. Payer carrément son loyer.
C'est deux extrêmes.
Ah oui. Non, mais pardon, mais moi, quand je retourne chez ma mère, elle me fait mon petit jus d'orange quand j'étais petite.
Tu retournes chez ta mère pour les vacances.
Mais elle dira comme la mère Juliette que je n'y vais pas.
Mais moi, pareil, quoique, c'est plutôt moi qui fais la cuisine chez ma mère, mais elle va faire mon lit, voilà, elle va s'occuper de moi comme n'importe
quel. La mienne, elle fait pas mon lit, faut pas déconner.
Comme un autre qui s'occupe de son invité, là, c'est pas vivre au quotidien, et là, quand je parle de responsabilité.
Non, mais le linge, oui, par contre, le linge, oui.
Je fais pas le lit des gens qui dorment chez moi.
Si, ce qui arrive.
Pardon?
Le lit est prêt.
Ah, mais avant, oui. Mais pas le matin quand ils vont
me
petit déjeuner. Je suis pas la
femme
de chambre.
Faire le lit quand j'arrive, le lit est prêt.
Ah oui.
Oui,
heureusement.
J'espère que ta mère te met des drapeaux.
Je croyais qu'elle faisait tout.
Alors moi, je dis, maman, parce qu'elle sait très bien. Moi, elle me met les draps et c'est moi qui fais le lit.
Voilà, ça, c'est pas grave.
Moi, quand je vais au village, c'est prêt.
Mais je croyais fier que ta mère te faisait le lit le matin quand tu. Voilà, non, elle ne fait pas ton lit le matin. Je veux dire, elle te fait tout.
Ah non. Je vais vous mentir, mais si elle le fait, en fait.
Est-ce que les draps.
Je suis obligé parce que je sais qu'elle nous écoute et je sais qu'elle va dire non, je le fais. Et c'est vrai qu'effectivement, quand je suis chez elle.
On embrasse ta mère, on embrasse les mères de tout le monde.
C'est encore les draps avec les personnages de Caras.
En fait, elle fait mon lit, ouais.
C'est encore les draps avec les personnages de Caras ou pas?
De
du Roi Lion.
Du Roi Lion.
Je pense que c'est vrai.
Mais oui, on va remercier Jean-François d'avoir été avec nous, qui nous a fait beaucoup rire, Jean-François, avec son beau-fils de 34 ans. Vous savez, Jean-François, vous n'êtes pas à l'abri qu'il s'installe chez sa mère avec sa compagne, hein, faites gaffe.
Ne me portez pas la poisse. Hein.
Vous avez raison, merci beaucoup Jean-François. Et merci à notre invité Florence Lautredoux d'avoir été avec nous. On termine peut-être avec un dernier message, Rémi, et le résultat de notre sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi.
Ludo nous dit salut l'équipe, moi j'ai deux filles, 21, 22 ans, une en CDI, l'autre en CDD. Nous, c'est un choix, pas de soucis. Seule obligation pour elle de dire quand si elle rentre manger ou ouais. Si elle compte rester dormir. Tout se passe très bien. La bise à vous.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.
RMC, 4h30. Bon réveil à tous, bon courage si vous êtes déjà sur la route, déjà au boulot. On est tous ensemble le matin dès 4h30 sur RMC pour un premier journal en direct avec à la une une situation un peu plus calme à Nouméa ces dernières heures. L'armée a commencé à se déployer, on en sait plus sur le profil des émeutiers, vous allez l'entendre. À la une également le phénomène Tanguy qui ne cesse de progresser, de plus en plus de jeunes adultes, y compris les travailleurs qui continuent à vivre chez leurs parents. Et puis Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour l'Euro avec une grande surprise, le retour d'N'Golo Kanté. Une nuit plus calme que les précédentes en Nouvelle-Calédonie, selon les autorités. Une école et au moins deux entreprises ont tout de même brûlé, précise le Haut-Commissariat de la République. En plus des 1700 effectifs déjà sur place, 1000 forces de l'ordre supplémentaires vont être déployées dans les prochaines heures, a indiqué Gabriel Attal. L'armée s'est également déployée pour sécuriser les ports et l'aéroport. Les forces de l'ordre ont été confrontés à environ 5000 émeutiers. 200 d'entre eux ont d'ailleurs été interpellés. Mais alors, qui sont ces émeutiers qui, depuis plusieurs jours, créent le désordre autour de Nouméa ? Élément de réponse avec Mao Bécard-Granier.
Ce qui frappe dans le profil des émeutiers, c'est d'abord leur âge, analyse Cédric Boyer, en charge des Outre-mer pour le syndicat de police Alliance.
On parle d'une tranche d'âge partant de 12 à 25-30 ans. Et c'est ce qui est assez effrayant, en fait, de savoir qu'il y a des mineurs qui n'hésitent pas également à faire feu sur les forces de l'ordre, dû au fait de la facilité de trouver des armes qui circulent en grand nombre en Nouvelle-Calédonie. On parle de plus de 70 000 armes pour une population d'environ 250 000 habitants.
Ces jeunes, pour la plupart des Kanaks, peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie, sont aussi issus des classes sociales les plus pauvres, ce qui explique en partie ces violences aux yeux d'Isabelle Merle, directrice de recherche au CNRS.
C'est des gamins qui n'ont rien à perdre parce qu'ils n'ont pas de pièces, comme on dit là-bas. Et ils ont la rage et ils ont une colère immense. Les inégalités sociales et économiques dans ce pays sont les pires de tout l'ensemble des territoires de la République.
Dans l'archipel du Pacifique Sud, plus d'un jeune sur quatre est au chômage.
Les précisions de Mao Bécard-Granier, ces émeutes qui ont causé, selon un premier bilan, 200 millions d'euros de dégâts des comptes de la CCI de Nouvelle-Calédonie. 350 enquêteurs mobilisés pour retrouver Mohamed Amra, le détenu qui s'est évadé mardi dans l'heure, et le commando qu'il a libéré sont toujours introuvables. Mais les recherches avancent très bien, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et c'est une info RMC, la mémoire de Fabrice Mouello et Arnaud Garcia sera honorée ce week-end dans deux stades de football, à Lens et à Caen. Ce phénomène dont on parle beaucoup, celui des tanguis. Les tanguis sont de plus en plus nombreux en France, près de 5 millions d'adultes qui vivent chez leurs parents, selon la dernière étude de la Fondation Abbé Pierre, chiffre en augmentation de 5% en 7 ans. Ils sont en majorité des 18-24 ans, mais la part des 25-34 ans progresse aussi, hein, parmi ceux qui habitent toujours dans le logement familial. Et les étudiants ne sont désormais plus les seuls concernés par ce phénomène, explique Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre.
Il n'y a pas que des étudiants, hein. 1,3 million de personnes qui ont un emploi. Ça veut dire, logiquement, quand vous êtes adulte avec un emploi, la norme, c'est quand même d'avoir votre logement. Sauf que c'est devenu tellement difficile que beaucoup restent pendant des mois, des années chez leurs parents. Parfois reviennent chez leurs parents parce qu'ils ont une perte de boulot, une maladie, etc. Une rupture conjugale, très souvent. C'est aussi souvent des mobilités professionnelles. Vous aviez un premier boulot à Paris et après vous voulez relancer votre carrière à Marseille. Vos parents sont à Marseille. Vous allez habiter chez vos parents pendant quelques mois, le temps de cohabiter. Mais parfois ça s'allonge, soit parce qu'on ne trouve pas de boulot, soit parce que le boulot ne permet pas de payer un loyer.
Ouais, Manuel Domergue de la Fondation Abbé Pierre hein, qui sort cette étude, ces chiffres, et ça va être très intéressant de vous entendre ce matin au 32-16 parce que c'est une réalité sur le terrain. Ça va être très intéressant de vous entendre. Tiens, vous êtes jeune travailleur, jeune adulte, hein, vous avez moins de 35 ans, mais vous habitez toujours chez vos parents. Vous avez dû revivre chez vos parents parce que, comme le décrit Manuel Domergue, un problème au boulot, un changement dans la carrière, une rupture conjugale, une maladie. En tout cas, il y a de plus en plus de raisons qui poussent de jeunes adultes à rester chez leurs parents, et en particulier aussi la crise du logement. C'est de plus en plus compliqué de se loger. Tiens, à quel âge êtes-vous parti de chez vos parents? Et puis, en tant que parent, racontez-nous aussi, est-ce que voilà, vous avez des enfants qui sont étudiants de plus en plus tard, qui restent à la maison de plus en plus tard, qui, même s'ils travaillent, restent de plus en plus tard à la maison? Est-ce que c'est de plus en plus compliqué voilà, de quitter le nid familial, de prendre son envol pour des raisons financières notamment, mais pas que? Justement, on va mieux comprendre les nuances, les subtilités avec vous ce matin. Racontez-nous, tiens, si vous avez dû retourner vivre chez vos parents, n'hésitez pas, le 32-16 est ouvert. Là, Quentin attend déjà vos appels et on a hâte de vous entendre avec Géraldine. Vous nous rejoignez à partir de 5h en direct dans Charles Matin. Et puis, le sport, c'est Didier Deschamps qui a dévoilé hier soir sa liste des 25 joueurs qui disputeront l'Euro 2024 dans un mois en Allemagne. Et une surprise, N'Golo Kanté fait partie des appelés. Le sélectionneur a expliqué les raisons qui l'ont poussé à rappeler le champion du monde 2018.
Je vous assure qu'il a retrouvé toutes ses capacités. J'ai pris cette décision parce que je considère que l'équipe de France sera plus forte avec Engie. Il rentrait dans la réflexion, j'ai échangé plusieurs fois avec Engie. D'avoir au très haut niveau des joueurs qui ont vécu une expérience, c'est aussi quelque chose d'important.
Et cet Euro qui débute dans un mois tout pile pour l'équipe de France, ça se passera évidemment sur RMC radio officielle de l'Euro 2024, hein, tous les matchs en direct, 12 consultants, l'after tous les soirs, une radio digitale 100% Euro 24h sur 24, vous saurez tout de l'actu des Bleus avec les équipes d'RMC mobilisées en France et en Allemagne, on a déjà hâte d'y être. Et puis la météo du jour, bah c'est toujours la même situation hein, ce matin de fortes pluies sur la Moselle et le Bas-Rhin qui sont en vigilance orange, et à nouveau cet après-midi des averses orageuse de l'Atlantique au Massif central, un temps plutôt sec près de la Méditerranée. Et côté température, ben on reprend à peu près les mêmes qu'hier. Hein. Cet après-midi, il fera généralement de 17 à 21 degrés et on montera jusqu'à 24 degrés du côté de la Corse.
La météo sur RMC avec BNP Paribas. Avec Tap to Pay sur iPhone et Accepta BNP Paribas, acceptez les paiements sans contact. Il suffit d'un iPhone.
4h36 sur RMC, on va se retrouver dans 20 minutes maintenant pour le coup d'envoi de Charles Matin avec toute l'équipe, avec Géraldine Demory évidemment, mais aussi avec l'équipe d'RMC s'engage avec vous. On sera avec Guillemette Franquet tout à l'heure, on sera aussi avec Manu Le Chypre dans Manu Conso, la bande à 5h40, on va parler sport avec Alex Biggerstaff, les trouvailles tech de Belinda Davansoulas, bref toute l'équipe, mais surtout vous. Au 32-16, évidemment, vous arrivez quand vous voulez, hein, vous installez autour de la table pour débattre. Vous allez avoir les toutes dernières infos dès le journal de 5h, évidemment, toute l'actu en direct, la situation à Nouméa, la traque de Mohamed Amra, les toutes dernières actus ce matin sur RMC, et puis vos témoignages au 32-16 sur ce phénomène des tanguis, hein, ces millions de Français qui habitent toujours chez leurs parents. Le phénomène ne cesse de progresser. On a notamment plus d'un million de jeunes adultes qui travaillent, qui ont un emploi stable, mais qui restent chez leurs parents, qui n'ont pas forcément les moyens de trouver un logement. Mais racontez-nous les raisons pour lesquelles vous vivez toujours chez vos parents, vous êtes retourné vivre chez vos parents, et puis en tant que parent, est-ce que vous avez encore vos enfants qui sont de plus en plus grands, vos grands-enfants qui restent de plus en plus tard à la maison? Le 32-16 est ouvert. Tiens, à quel âge êtes-vous parti de chez vos parents? À quel âge avez-vous eu les moyens de quitter le nid familial? Vous venez nous le dire ce matin au 32-16. On vous lit aussi sur l'appli RMC, hein, sur Direct Studio. On va lire vos témoignages, évidemment, avec Géraldine et toute l'équipe dans Charles Matin. Et d'ici là, vous profitez des meilleurs moments d'Estelle Midi.
Merci Charles, et on vous retrouve juste avant 5h. Ce sera après les meilleurs moments d'Estelle Midi sur RMC.
Estelle Midi,
RMC Conso.
Et Charlotte, aujourd'hui, vous allez nous faire gagner de l'argent grâce à des applications à télécharger. Et surtout, on n'a quasiment rien à faire.
Vous aimez cuisiner ?
Oui.
Vous aimez prendre des photos ?
Ouais.
Ce sont les deux seules tâches que vous devrez accomplir si vous téléchargez cette application qui s'appelle Coco Cooking. En fait, le principe est super simple. Vous prenez en photo vos plats et ça vous rapporte 6 centimes par photo. Alors, ce n'est pas ça qui va vous faire fortune, hein,
non,
c'est sûr.
Non, mais ça va de commencer à quelque chose.
Si vous faites 3 photos par jour, donc à chaque repas, il faut à peu près 2 mois pour avoir 10 euros.
Ah.
Bon, bah, ça se cumule quand même au fil du temps comme ça, et il faut être très assidu, mais ça permet de gagner un petit peu de sous.
Oui, mais alors si par exemple, en fait, je prends des photos de mes plats et des photos de tous les plats autour de moi, genre je vais au restaurant et je photographie tous les plats, là, je peux me faire vraiment de l'argent, quoi.
Ça marche pas comme ça parce qu'ils autorisent une photo par heure, donc éventuellement, vous pouvez quand même en prendre toutes les heures, mais et il faut aussi pouvoir amener pas une preuve, mais disons que ce soit crédible, que ce soit vous qui l'ayez fait. C'est-à-dire que si vous présentez le plat d'un chef 3 étoiles, non, je pense que ça passera pas.
Si c'est moi qui l'ai fait.
Bah ouais. c'est moche. Si c'est moche,
non,
c'est
bah toi. Non. Moi je fais des
plats.
Ah, mais
si ça fait photo Google, mais faut que ça fasse maison, quoi. Faut que ça fasse. Je sais pas exactement quels sont leurs algorithmes pour repérer ça, mais faut que ça.
En vrai.
C'est un petit côté authentique.
On fait bien la différence entre un plat personnel, souvent quand même, et un plat de restaurant. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que les gens ont téléchargé cette appli?
Oui, l'application revendique 1 million de téléchargements, donc c'est quand même pas mal. Et d'ailleurs, elle a été repérée par Carrefour Belgique, qui a noué un partenariat avec elle pour pouvoir l'implanter en Belgique.
Alors, c'est vrai que les gains ont l'air minimes, hein, comme ça, 10 euros en 2 mois, mais ça paraît presque trop beau pour être vrai. Il y a forcément un truc, c'est-à-dire que l'application, elle doit être gagnante quelque part.
Bien sûr, il n'y a pas d'argent gratuit, donc évidemment, elle se fait de l'argent. Comment? Tout simplement, c'est une incroyable vitrine pour les marques, et ça, Carrefour l'a bien compris, c'est bien pour ça qu'ils ont noué ce partenariat. En fait, c'est simple, les marques, elles ont des partenariats avec cette application, et elles proposent des défis, c'est-à-dire qu'elles vont vous dire, vous allez utiliser la marque, la plaquette de chocolat de ma marque pour faire un gâteau, et poster la photo, et vous allez mettre en avant cette tablette de chocolat, ce qui va faire une pub incroyable pour la marque, sachant qu'il y a 1 million... potentiellement de cible, puisque 1 million de personnes qui ont téléchargé l'appli, c'est une opportunité de publicité énorme pour les marques, et évidemment ça fonctionne.
C'est hyper malin, en fait.
Et bien sûr, c'est très très malin. Alors l'idée, quand même, il y a une idée un petit peu plus vertueuse que ça derrière. L'idée de son fondateur, c'est de promouvoir le fait maison et le mieux manger. Donc ça, c'est un aspect santé. Il veut même à terme apporter un élément supplémentaire qui sera des conseils pour mieux équilibrer ses assiettes. Et d'ailleurs, c'est un aspect santé qui est mis en avant par une autre application qui s'appelle WeWard. Alors cette fois, le principe, c'est pas de cuisiner, mais de marcher, tout simplement.
Ouais. Mon fils a ça, tiens. Je
moi aussi.
Ouais. Non. WeWard. Alors expliquez pour ceux qui ne savent pas. Que c'est, Charlotte?
Il suffit d'accumuler des pas toute la journée, comme vous le feriez de toute façon n'importe quand vous marchez, tout simplement, cette action toute simple. Et donc, ces pas, ils sont comptabilisés avec le podomètre de votre téléphone. Et alors là, c'est pareil, vous n'allez pas faire fortune avec WeWard. Il faut quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup marcher pour que ça rapporte. Selon mes calculs, 10 000 pas par jour pendant un an, voilà, permet d'avoir 20 euros. Selon le fondateur de l'application, c'est plutôt 60 euros en moyenne par an parce que, effectivement, il y a des challenges, des bonus. Si vous faites 10 000 pas en une semaine, ça vous rapporte plus des cartes à jouer. 20 euros par an, c'est ce que j'ai calculé aussi. Ça me semble quand même plus crédible. C'est le fondateur qui m'a avancé ce chiffre, peut-être un poil au-dessus de la moyenne.
Non, parce qu'en fait, t'as des bonus si tu fais par exemple 20 000 pas par jour.
Oui, j'ai des bonus.
Voilà,
t'as des
bonus, puisque voilà, tu vois des gens autour de toi qui disent attends, j'ai encore 1 000 pas à faire pour avoir mon bonus. Tu dis,
okay, on a besoin d'applications pour marcher. Quoi.
Oui, mais en même temps, c'est génial parce que pour le coup, ça te fait marcher. Et le principal, c'est quand même ça. C'est pas tes 20 euros par an, c'est le fait que tu marches. Et donc finalement, ça t'aide quand même à rester en bonne santé.
Ils revendiquent que ça nous fait marcher 25% de plus que si on n'avait pas l'application. Ce sont les chiffres avancés.
Le coup de la carotte, forcément, mais là encore, il y a une contrepartie.
Bien sûr. Alors, ce dont vous ne vous rendez pas forcément compte avec l'application, c'est qu'en fait, il y a de la publicité qui arrive sur votre écran. C'est de la publicité ciblée. On en avait déjà parlé sur cette antenne. Donc, en gros, quand vous avez l'appli, il faut forcément vous connecter au moins une fois par jour pour valider vos pas de la journée, ce qui vous pousse à aller sur l'application, à recevoir les publicités. C'est comme ça, évidemment, qu'elle se rémunère et c'est le système, le modèle économique de cette application.
Et bien, si vous voulez retrouver en tout cas toutes ces applications, vous n'hésitez pas, le podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Merci beaucoup Charlotte pour ces bons plans et on se retrouve bien sûr lundi.
Oui, à lundi.
Dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi. RMC. Rotten sans flamme.
Salut, c'est Jérôme Rotten. Cette semaine, dans Rotten sans flamme, on fait le grand jugement de la saison du Paris Saint-Germain. Et croyez-moi, ils vont tous y passer. Ne ratez surtout pas ça, ce sera tous les soirs à 18h30 sur RMC. Et ce soir, on fait le procès de Gigio Donnarumma.
Tous les samedis et dimanches, de 6h30 à 9h30, c'est la matinale week-end sur RMC. L'info, le sport, toutes les demi-heures. Des invités au plus près de l'actu, mieux manger avec Perico Legas et vous au 32-16. La matinale week-end, c'est demain et dimanche, dès 6h30 sur RMC.
La matinale week-end sur RMC avec l'imprimante Realipix Mini P2 d'Agfa Photo. Imprimante au format de poche qui imprime instantanément les photos de votre smartphone.
sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff. RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et tout de suite, les immanquables d'Estelle Midi, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui avec Rémi Barré, Pierre Rondeau, Juliette Briens et Fred Hermel. Et Rémi, nous allons commencer tout de suite avec l'arrêt du jour.
Oui, attaqué devant le tribunal administratif par plusieurs associations, l'arrêté anti-mendicité qui avait été pris par la mairie d'Amiens vient d'être suspendu par la justice. Les associations estimaient que cet arrêté était liberticide et disproportionné. Et d'ailleurs, au cours de l'audience devant le tribunal administratif, l'un des élus de la ville a reconnu que c'était bien en lien avec les JO. Alors, il n'y aura pas d'épreuve des JO de Paris 2024 à Amiens, mais la flamme olympique, il doit y passer le 4 juillet. Et l'arrêt anti-mendicité était bien pris en lien avec ce passage de la flamme.
C'est bien qu'il ait été retoqué cet arrêt, Pierre Rondeau.
C'est bien que la justice ait été appliquée et qu'elle ait suspendu un arrêté liberticide. C'est bien que la justice ait été respectée. Et j'arrive en plus à ne pas comprendre, l'argument des Jeux Olympiques et du passage de la flamme.
Bah si, quelque part, c'est que la ville, tout soit beau, etc. Et que rien ne gêne.
L'image, là, ça fait deux semaines qu'on annonçait qu'à Amiens, on avait voté un arrêté liberticide qui sanctionnait la mendicité. En termes d'image pour la ville d'Amiens, elle a pris un coup cher.
Oui, mais t'as des gens qui étaient pour aussi.
Là,
hein.
J'arrive pas à comprendre la logique, l'idée. Il y a une loi, il y a une justice, elle a été appliquée, la justice. Oui. Voilà, c'est normal qu'on ait quand même le droit, si on a envie de donner à quelqu'un, de pouvoir donner.
C'est de demander, et en fait, c'était sur les cas avec des gens qui étaient parfois en état d'ébriété et qui agressaient les passants.
C'est ce que dit la mairie. En fait, l'arrêté, il était valable du 1er mai au 31 août prochain. La mairie disait qu'il y avait un lien avec le passage de la flamme le 4 juillet, mais que c'était pas que pour ça. Il y avait aussi des plaintes récurrentes de commerçants et des interventions multiples des forces de l'ordre pour faire cesser les troubles à l'ordre public certaines personnes qui faisaient la mendicité de manière un peu...
Non mais bien sûr,
c'est agressif, tu appelles les flics et tu portes plainte.
Oui, c'est agressif ou ça peut être vraiment tellement récurrent et peut-être pas agressif, mais vraiment demandant. Moi, il y a quelques jours, je me suis assise à une terrasse, je suis restée à peine une heure. J'ai eu 5 demandes de cigarettes ou de...
Crois-moi, c'est pas parce que tu m'en arrêtes qu'ils m'ont arrêté.
Évidemment, de gens à qui j'ai répondu avec toute la gentillesse. Alors, il y en a qui partent tout de suite. Et il y en a qui restent, quoi. Qui redemandent, etc. Ça peut être insupportable. Moi, par contre, le côté, on fait ça pour les JO et pas le reste du temps, ça, je trouve ça insupportable. On s'occupe pas des mendiants le reste de l'année. Oui. Et puis, juste pour les JO, pour le passage, pour que les touristes soient contents, on s'en occupe. C'est exactement la même chose que avec les migrants qu'on envoie comme ça, comme si c'est des objets, quoi, à l'autre bout de la France, comme ça, parce que les JO, il faut que ça fasse propre. Ça, c'est insupportable.
Fred Hermel.
Très bonne décision de justice. Hein. Cacher cette misère que je ne saurais voir. Ouais. Quoi. Enfin, on ne règle pas le problème, on le cache. Donc, c'est lamentable, donc c'est très bien. Et je suis d'accord avec Pierre, c'est une mauvaise publicité pour la ville d'Amiens.
La manifestation du jour.
Manifestation de plusieurs dizaines de riverains des squares des boulevards Richard Lenoir et Jules Ferry dans le 11e arrondissement de Paris, opposés aux grandes promenades plantées prévues entre Bastille et Stalingrad, a annoncé par Anne Hidalgo. En fait, la mairie a décidé de démonter toutes les grilles qui fermaient les accès à ces deux parcs, mais pour donc créer une sorte de promenade verte. Mais la perspective d'espace vert accessible 24 heures sur 24 inquiète les habitants qui redoutent des nuisances nocturnes. Hier, leur manifestation s'est déroulée dans une ambiance assez tendue, hein, en présence d'une imposante présence policière.
Je vais juste préciser que le quartier, en l'occurrence, entre Stalingrad et Bastille, l'espèce de chemin vert, oui, malheureusement, et là c'est problématique et c'est une responsabilité partagée, mais aussi une responsabilité de la mairie de Paris. Il y a énormément de ce qu'on appelle communément les craqueux. Il y a énormément de fumeurs de crack, de toxicos, de gens alcoolisés. Je rejoins les riverains qui s'inquiètent qu'effectivement laisser ouverts ces parcs toute la nuit, ça va augmenter les incivilités. Je suis de gauche, hein, je suis censé être du côté du PS, du côté d'Anne Hidalgo, mais je me demande vraiment si les élus locaux constate au quotidien ce qui s'y passe. À vouloir faire de l'écologie, à n'en plus finir, à juste titre, faire un chemin vert, c'est très intéressant. Mais avant même d'y penser, regardez ce qui se passe et regardez qu'entre Stalingrad...
C'est pas possible.
La ligne 7 du métro qui passe par Stalingrad, elle est tous les jours arrêtée parce que tous les jours, il y a des gens qui vont sur
les rails,
qui traversent les voies, qui sont shootés, qui sont alcoolisés. Et là, on nous fait, quelle est la priorité de la mairie, faire un chemin vert.
C'est ça. Et en fait, c'est la mairie qui ne pense jamais à ses riverains, quoi.
Mais ils peuvent l'oublier, leur parc, hein. Là, c'est fini, hein. Un parc non fermé, ils peuvent complètement l'oublier, leur parc. Il va falloir prendre le métro et venir au jardin du Luxembourg. Vous vous inquiétez pas, là-bas, c'est géré par le Sénat. Il n'y a pas un drogué, il n'y a pas un. Non, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Les poubelles sont vidées tout le temps, il n'y a rien qui traîne par terre. Les pelouses sont magnifiques. Le jardin du Luxembourg, c'est écrit, en fait, pratiquement à la porte d'entrée que ce n'est pas Hidalgo qui le gère. C'est incroyable. C'est incroyable le bonheur que c'est, les jardins du Luxembourg. Il y a des sièges de partout, il y a des activités pour les enfants, c'est propre.
Ils sont payantes, hein. Oh, ça s'appelle le pouce
voilà,
en l'air.
Le bonheur. Voilà le bonheur. Quand Anne Hidalgo n'a rien à voir là-dedans et c'est fermé. Il y a des agents de sécurité qui sont pas du tout agressifs avec personne, puisqu'ils n'ont pas besoin, parce que l'ordre est établi dès le départ.
C'est pas le même quartier non plus.
Il y a pas de vendeur à la sauvette, un seul.
Non, mais c'est pas le même quartier non plus.
Mais oui, mais c'est le, mais les parcs dans n'importe quel quartier où vous les mettez.
Pouvoir bénéficier de ce.
Mais bien sûr, c'est la gestion du parc qui rentre en jeu. Il y a des gens qui viennent de tout Paris pour venir au jardin du Luxembourg. C'est la gestion. Pas un vendeur à la sauvette, pas, il y a rien. Il y a rien, juste du bonheur. Des gens qui lisent, des gens qui rient. Voilà, je vous le conseille.
Frère Hermel.
Quel mal ces politiques font à la politique ? Parce qu'en fait, ce sont des gens qui ont des idées, comme ça, mais des dogmes. Donc, ils appliquent un dogme, mais sans jamais prévoir les conséquences évidentes pour tout le monde.
Ils s'en foutent.
En fait, c'est le dogme.
Elle ne doit pas habiter à côté.
On prend telle décision. Vous savez, c'est ce qui s'est passé avec les grilles d'arbres. Vous savez, à un moment, la folie Hidalgo, c'était d'enlever ces très belles grilles d'arbres qu'il y a dans les rues de Paris.
Au pied des arbres.
Pour mettre des trucs avec un produit, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est... Et là, ils sont en train de se vanter, de faire une campagne en disant « Oui, nous remettons les grilles d'arbres,
Enlevées. »
Enfin, c'est ridicule.
Nous allons passer, Rémi, à la demande en mariage du jour.
Ouais, une demande en mariage inattendue. Une entreprise de pâté breton, Enaf, que tu connais bien,
ah bah oui.
A tout mis en œuvre
pour, bon.
Pour satisfaire la demande d'une femme qui leur est parvenue cette semaine. Tout commence à la réception d'une lettre au siège de l'entreprise à Pouldreuzic, dans le Finistère. Selon le récit du fabricant, la femme leur a demandé de réaliser une boîte de pâté unique pour son conjoint, qui en est amateur, afin qu'elle effectue sa demande en mariage de façon originale, parce que monsieur n'est pas très entreprenant.
Mais j'adore.
La boîte a été confectionné par l'entreprise. Et l'entreprise donc assure qu'elle donnera des nouvelles de l'issue de la demande dans les prochains jours.
C'est extraordinaire. Non,
il a mis la bague dans la boîte de pâté.
Elle a mis un message dans la boîte de pâté.
Voilà.
Demandant en mariage, ou l'incitant à la demander en mariage.
Ben, c'est ça. Et oui, il y a peut-être un truc sur la boîte. Enfin, c'est... Non, mais après, c'est original. Enfin, non, mais franchement.
Oui, c'est original. Bien sûr, c'est original. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? C'est original.
Et
c'est...
Ben, tu peux... répondre, moi, si tu veux.
Vas-y, je te laisse la parole. Parce que
mais moi, je trouve ça. Mais les gens de Enaf, ce sont des gens très intelligents.
Mais ils sont très bons communicants.
Pour la marque, oui. Ah, mais ils ont fait des photos de la conception de la boîte.
Parce
que ils ont pris une vraie boîte de pâté Enaf. Donc, ils l'ont pris sur la chaîne. Donc, ils ont dû ralentir.
Oui, c'est un vrai boulot.
Qui vraiment très vite met le message et la boîte repart refermée.
Parce que enfin, t'imagines, ça aurait pu tomber sur quelqu'un.
Faut pas qu'il se gourde.
Non, il aurait
récupéré. C'est destinataire.
Ils ont vraiment dû ralentir la chaîne.
Sur la lettre, une personne bio. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie aller à la
poubelle.
Non, il y a quelqu'un de très intelligent qui a lu la lettre, qui est allé voir le patron ou le directeur marketing. Ils ont dit on le fait, et raison. Parce qu'aujourd'hui, dans une grande émission de radio et télé, on parle des pâtés d'AF.
Moi, je trouve ça quand même. Je trouve ça assez marrant, toi.
Super, j'adore, excellent. J'ai pas trop compris si c'était. Le message était d'elle ou alors de Enaf qui lui dit
non,
ta femme en mariage.
Elle a mis un message dans le pâté.
C'est elle qui a mis un message pour son conjoint qui aimerait bien pouvoir épouser mais qui n'est pas très entrepreneur.
Voilà, oui.
Oui, il a intérêt, il a intérêt dans un
monde.
Il faut pas qu'il ouvre la boîte quand elle est pas là, tu vois.
Ah bah c'est sûr. Enfin, je veux dire,
ou qu'il l'offre. Ou qu'il.
Il l'achète, il y en a quelqu'un.
Je vais essayer de faire ça au
travail.
C'est Prunier, c'est les caviars français.
Non, mais bravo, j'espère qu'ils sont très heureux.
Ouais, ah. Voilà. Ben, on espère que ça va marcher, surtout. On attend la communication
quand d'Enaf avec du pâté, généralement.
Parce que s'il dit non.
Ah, si c'est vrai, s'il commence à râler parce qu'il n'a pas eu son pâté.
Surtout s'il appelle le service conso en disant bah, attendez, j'ai trouvé du papier dans mon pâté, c'est inadmissible.
Je vais vous faire cracher.
Allez, c'est la fin des immanquables. Et tout de suite, Vincent Cerussi. Pour Cerussi, n'a pas tout compris.
RMC, Estelle Midi.
Cerussi n'a pas tout compris.
Bonjour Vincent.
Bonjour. Attendez, j'arrive.
Oui. Bah, installez-vous. Le ketchup chez vous.
Ouais, bah, carrément. Attendez. Ouais. Non mais parlez.
Vincent. Aujourd'hui, vous ne comprenez pas pourquoi il y a de plus en plus de Tanguy en France.
Mais oui, apparemment, il y a de plus en plus de Tanguy en France. Bon, moi, tant qu'il y a de moins en moins de Kevin ou de Dylan, ça me va très bien. Hein. Puis pour une fois, c'est un prénom qui va plaire à Zemmour, donc on dit pas non. Hein. Voilà.
On parle pas du prénom Tanguy là, Vincent.
Ah, d'accord. Vous avez vu comme j'ai fait genre que je savais pas, mais je sais. On parle bien du phénomène être un Tanguy, c'est-à-dire lorsqu'un adulte a du mal à vivre avec sa famille. Après, l'inverse existe. Hein. Dupont de Ligonnès, lui, il avait du mal à vivre avec sa famille. Voilà, c'est différent. Non, mais c'est vrai que c'est marrant d'attribuer comme ça une caractéristique à quelqu'un. Par exemple, quand quelqu'un est lourd, tu lui dis juste oh t'es lourd. Tu lui dis pas oh t'es Fred. C'est quand même un peu différent. Après, non, mais après il y a pas des Tanguys partout. Hein. Les Tanguys, on les retrouve principalement dans les Hauts-de-France. En même temps, c'est compliqué de quitter le domicile familial quand t'es marié à ta mère, donc forcément ça change. Non, mais voilà, c'est une coutume.
Enfin, vous dites ça, mais vous habitez encore chez votre père.
Oui, bah ça va, pas besoin de le dire devant tout le monde.
Bah, vous le savez, on va parler à l'heure de chronique.
Non, mais après, il y a deux catégories. Il y a être Tanguy, c'est quand tu habites chez tes parents, et être à bout, c'est quand tu habites chez mes parents. Donc là, c'est différent. Ouais, d'ailleurs, mon père est en train de craquer. La dernière fois, je l'appelle pour lui dire que je vais rentrer tard parce que je suis avec un pote. Il m'a dit, t'as 27 ans, si tu pouvais ne pas rentrer du tout, ça serait pas mal. Il est à bout complètement, mais en même temps, c'est tellement bien de vivre chez ses parents. Ouais. Quoi. C'est tellement pratique chez tes parents. Quand il n'y a plus d'eau chaude, bah, c'est réparé. Chez toi, quand il n'y a plus d'eau chaude, bah, il n'y a plus d'eau chaude. Voilà, ouais, c'est ça la différence.
Après, nous inquiétez pas, hein, il y a toujours plus de Tanguy chez les jeunes, vous n'êtes pas seul.
Bah, je sais bien, Macron dit fête des gosses, nous on est là, bah, on veut bien, mais il y a nos parents qui sont dans la chambre d'à côté. Donc, bah oui, on habite encore chez eux. Moi j'habite encore chez mon père, je veux dire, c'est un peu bizarre, on fait tout ensemble, on déjeune ensemble, on fait les courses ensemble. Moi c'est vrai que je suis un peu perdu, quoi. Quand on me demande si je suis en couple, je dis non, mais j'ai quelqu'un, quoi. C'est particulier.
Vincent, dans l'émission, on a aussi parlé de la nouvelle application des voisins vigilants.
Ah oui, cette application, bah, écoutez, une application qui va permettre de localiser et de prévenir les faits inhabituels. À Paris, va y avoir des belles surprises hein, quand même. Hein. On va entendre des appels, genre je vous appelle par rapport à mon voisin. Ah, il y a un cambriolage ? Non, il m'a dit bonjour. Ça, c'est pareil. Après, certains sont pas contre. Pierre m'a dit que bah, il était complètement contre parce qu'il veut pas qu'on signale de cambriolage chez lui pendant la nuit, parce qu'il attend que ça, quelqu'un vienne passer chez lui pendant la nuit. Voilà.
Donc, vous pensez pas que c'est une bonne idée ?
Si, l'appli contient une map qui recense les alertes en direct. Après, je sais pas si ça va permettre de baisser la criminalité, mais au moins ça permet de situer où est-ce qu'on peut vivre en France, quoi. Apparemment, il y a que dans le Vercors que ça bip pas, sinon ça bip un peu partout. En revanche, Fred adore ça. Hein. D'ailleurs, on a un extrait de Fred Vigilant.
C'est les vacances et je suis un voisin vigilant.
Voilà, là il est en train de mater la femme de son voisin. Non mais en plus, il est fair play, Fred.
Et j'espère que mon voisin ferait la même chose pour moi.
Et ben voilà, mon Fred, ça se mate entre nous, c'est parfait.
Merci beaucoup, Vincent Cerussi, tous les jours dans Cerussi. Elle n'a pas tout compris, à 14h50 dans Estelle Midi et en podcast, rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement.
RMC, midi 15h,
Estelle Midi.
Retour d'Estelle Midi tout à l'heure, en direct à midi sur RMC. Et en attendant, Charles Matin avec vous, Charles Magnin. Bonjour Charles.
Salut Estelle, à tout à l'heure, oui, pour Estelle Midi. Mais tout de suite, c'est parti en direct à 4h56 sur RMC. On est tous ensemble pour Charles Matin. Good morning. Good morning.
Good morning. RMC. 5h-6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
4h56, c'est parti tous ensemble en ce vendredi 17 mai. Bon réveil à tous, bienvenue dans Charles Matin. Charles Matin, bah, c'est pas que Charles Magnin, c'est toute une équipe, je vais dire. Mais oui, c'est d'abord Géraldine Demory. Salut Géraldine.
Salut Charles, bonjour à tous.
On va saluer Quentin et Nico, standard, Yann en régie avec Arthur, toute l'équipe est déjà là.
Super équipe de Charles Matin.
Voilà, je salue tous ceux qui sont déjà là, mais beaucoup vont nous rejoindre au fil du réveil, de la matinée. Beaucoup vont nous rejoindre autour de la table, notamment vous. Au 32-16 ce matin, vous le savez, on vous attend pour toute l'actu, pour tous vos témoignages et aussi de la bonne humeur le matin. Tiens Géraldine, t'as suivi, j'en suis sûr, hier soir, Didier Deschamps qui dévoilait sa liste. Mais oui, milieu de terrain, attaquant. Mais oui, il y avait toute la liste, évidemment. Il y a un petit côté coup d'envoi de l'euro là dans ce qu'a fait Didier Deschamps hier soir. C'était au JT de TF1, vous avez peut-être suivi cette liste. Il y a une grande surprise. On l'avait pas vu venir, c'est N'Golo Kanté, le champion du monde 2018, chouchou des Français, qui est de retour en équipe de France. Il est pourtant parti jouer en Arabie Saoudite, mais voilà, Didier Deschamps est convaincu qu'N'Golo Kanté peut faire du bien à son groupe. Il y a un petit nouveau aussi, hein, Bradley Barcola. Lui, tu l'avais vu venir, Géraldine. Hein. Hier, tu me disais Barcola, j'y crois.
Oui, alors lui, non, je connais pas du tout.
Ah, je te chambre. Oui, mais N'Golo Kanté, tu le connais. Bah, par contre, bon, tiens, dites-nous, est-ce que vous avez été convaincu par les choix de Didier Deschamps ? On peut en parler si vous le souhaitez ce matin. Ça se passe évidemment au 32-16.
Et bien sûr, l'Euro sur RMC, bah, ça va être tous les matchs en direct.
sites, 12 consultants, l'after tous les soirs et puis une radio digitale 100% euro 24 heures sur 24. Vous saurez tout l'actu des Bleus avec les équipes RMC en France et en Allemagne. RMC en la radio officielle de l'Euro 2024.
Mais surtout ce matin, on vous attend au 32-16 pour parler de ce phénomène en pleine expansion, le phénomène Tanguy, comme on dit, ces adultes qui ont de plus en plus de mal à quitter le nid, souvent pour des raisons financières, à cause de la crise du logement, à cause de l'emploi, aussi la précarité des jeunes, la précarité des étudiants, mais aussi des jeunes travailleurs. C'est parfois aussi un choix de vie assumé. Hein.
En tout cas, d'après la Fondation Abbé Pierre, 5 millions d'adultes habitent toujours chez papa-maman. C'est 5% de plus qu'il y a 7 ans. Alors, en majorité, bien sûr, ça concerne les 18-24 ans, mais les 25-34 ans ont aussi de plus en plus de mal à quitter le nid.
Alors, racontez-nous, est-ce que vous travaillez et vous vivez toujours chez vos parents? Évidemment, ça nous intéresse ce matin au 32-16. On a besoin d'entendre vos témoignages. Vous êtes étudiant aussi. Là aussi, on vous attend. Est-ce que vous aimeriez pouvoir partir de chez vos parents, mais vous n'en avez pas les moyens? Est-ce que vous êtes retourné vivre chez vos parents aussi? Un accident de parcours dans la vie, un accident professionnel, une séparation, la maladie aussi, ça peut arriver. Racontez-nous. Et puis, en tant que parent, est-ce que vous avez des enfants là qui traînent de plus en plus tard dans le, voilà, dans le cocon, dans le nid familial? Est-ce qu'ils partent de plus en plus tard? Est-ce qu'ils reviennent vivre chez vous? Racontez-nous cette difficulté financière, souvent à quitter ses parents. Toi, Géraldine, t'es partie à quel âge de la maison?
Moi, je suis partie à 21 ans.
Ah ouais, moi, pareil, 21 ans, mais peut-être qu'on est d'une autre génération, peut-être qu'aujourd'hui, les jeunes.
Ah, moi, j'ai un frère qui est bien resté chez papa-maman.
Ah, qui a squatté un peu tard. Ouais. Bah moi, ça m'est arrivé il y a une dizaine d'années de repasser. Alors, c'était un moment de déménagement, etc. De repasser quelques mois. J'ai tenu 2 mois parce que c'est invivable.
Ah, c'est compliqué.
C'est très compliqué aussi.
Quand on n'a pas le choix, c'est compliqué.
Bah oui. Racontez-nous comment ça se passe à la maison. Est-ce que vous avez dû traîner un peu plus tard chez les parents parce que compliqué de quitter le nid familial? Est-ce que vous avez dû accueillir les enfants à la maison? N'hésitez pas, le 32-16 est ouvert. Évidemment, on va aussi lire tous vos messages sur l'appli RMC avec Direct Studio. Mais tout de suite, avant le journal de 5h, on va faire un point complet sur la météo du jour. Bon, Géraldine.